L'écrivain Ernest Renan écrivait que le besoin de croire à quelque chose d'extraordinaire était inné dans l'homme. Voilà peut-être une explication à la fascination toujours aussi forte des humains pour des créatures comme les dinosaures, et en particulier pour le plus grand des carnivores, le tyrannosaure. Ce bipède aux dents gigantesques pouvait atteindre les 15 mètres de long, et le T-Rex inspire toujours la littérature comme le cinéma 65 millions d'années après sa disparition. C'est aujourd'hui le dossier de la tête au carré à l'occasion de la publication d'un ouvrage, T-Rex Superstar, qui sort chez Belin, et je reçois dans un instant son auteur, le paléontologue Jean Leleuf, et l'illustrateur Alain Beneteau. Toutes vos questions sur Tyrannosaure Enco, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, une étude qui révèle que les changements environnementaux en Méditerranée font maigrir les anchois et les sardines. Plancton moins énergétique, température, débit des fleuves et pollution sont la cause. On en parle donc dans un instant en partenariat avec reporter.net. Stéphanie Texier est aux commandes de notre tête au carré, préparée aujourd'hui par François Mercier avec Estelle Honora.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà le T-Rex Superstar, dossier de l'émission avec mes invités, le paléontologue Jean Leleuf et l'illustrateur Alain Beneteau. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Jean Leleuf, pourquoi le tyrannosaure déprime-t-il autant les paléontologues comme vous ?
Alors, je ne sais pas si je suis déprimé, mais en tout cas, c'est finalement le dinosaure que tout le monde connaît, et les nombreux paléontologues qui ont décrit des centaines et des centaines d'autres espèces de dinosaures, leur petits bébés sont très méconnus.
C'est ça, ils sont un petit peu désespérés, mais évidemment c'est celui que tout le monde connaît et qui permet quand même de bien comprendre ce qui s'est passé dans ce milieu très particulier des dinosaures. S'il ne devait en rester qu'un, ce serait quand même celui-là. Il fait l'objet de votre ouvrage, on va en parler. Alain Beneteau, votre travail d'illustrateur spécialisé en paléontologie, elle consiste donc à représenter les scènes où évoluent par exemple les dinosaures. Est-ce que le T-Rex est un animal facile à représenter vu le volume justement d'informations dont on dispose à son sujet ?
Eh ben finalement non, c'est pas le plus facile parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour et c'est quand même celui que je préfère dessiner.
Pourquoi ?
Je sais pas, c'est un truc de gosse.
C'est vrai ?
Ouais, vraiment.
Ça remonte à très très loin ?
Ouais ouais, c'est, je suis victime certainement de tout ce qu'il y a autour de lui.
Ouais.
Voilà.
Avec quelques plumes là en l'occurrence ?
Oui, ah. En l'occurrence.
Sur
c'était
la couverture
une farce à Jean. Mais...
du T-Rex Superstar, on en reparle avec vous également dans quelques minutes et avec bien sûr les messages et les questions des auditeurs.
La science de l'environnement. En partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et les sardines et les anchois qui rétrécissent, c'est aujourd'hui à la une de la science.
Départ aux aurores pour les sardiniers du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Patrice Faugeron, patron du Nausicaa, un chalutier de 12 mètres, a les yeux rivés sur son sonar. Première mission, dénicher les bancs de sardines. Après une bonne heure et demie de trac, Patrice décide de remonter le chalut. Et déjà pour Patrice, première interrogation, savoir si la marchandise est de bonne qualité. Aujourd'hui, les sardines sont de belle taille et présentes en quantité.
C'est pur, c'est pur.
Voilà, et c'était en 2009 en Vendée lorsque tout allait bien, parce qu'aujourd'hui les choses ont changé visiblement et les anchois comme les sardines sont de moins en moins gros, de plus en plus jeunes. C'est la conclusion du projet Ecopelgol qui regroupe plusieurs grands instituts de recherche et qui s'est penché donc pendant 3 ans sur la fluctuation des stocks des petits poissons pélagiques dans le golfe du Lion. Jean-Marc Fromentin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en ligne, vous êtes écologiste marin, chercheur à l'IFREMER à 7, spécialiste des grands pélagiques et avec nous également en studio Hervé Kempf, rédacteur en chef de reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Jean-Marc Fromentin, en quoi consistait exactement ce projet Ecopelgol ?
Bah, il s'agissait de comprendre un peu ce qui se passait sur ces populations de sardines d'anchois, parce que c'est quelque chose qui nous intriguait beaucoup d'un point de vue scientifique. On avait affaire à des biomasses qui étaient à peu près stables, et puis des poissons qui devenaient de plus en plus petits et qui avaient des tailles qui étaient plus commercialisables. Et donc ça a généré une crise à la pêche. Donc on avait un enjeu scientifique et un enjeu économique à la clé, et donc on s'est posé cette question d'où venait ce problème sur les anchois et les sardines.
Et ce sont les pêcheurs au départ qui vous ont alerté ?
Oui, les pêcheurs, et puis on avait des campagnes scientifiques également, et on est arrivé au même constat en même temps, donc il y avait un problème.
Alors, quelle est la conclusion de cette étude ?
Ben, la conclusion principale, c'est que ces changements de taille et de conditions, parce qu'en gros, ils sont plus petits, mais ils sont aussi plus maigres, ils sont aussi moins vieux. Hein, en gros, les gros individus ont disparu, les poissons les plus âgés ont carrément déserté. La sardine, qui peut aller jusqu'à 5-7 ans, maintenant, on a du mal à trouver de la sardine de plus de 2 ans en Méditerranée. Ouais, c'est vraiment un gros changement.
Ouais.
Et ça vient essentiellement d'un changement du plancton et de la qualité et de la quantité du plancton.
Et ça provient de quoi, en fait, cet changement dans la qualité et la densité du plancton?
Ça vient on pense à l'origine de phénomènes naturels, de changements océanographiques. Hein. Il y a toujours des changements dans les courants, dans la température, dans tout un tas de choses qui gouvernent le mouvement des masses d'eau marines. Et ça affecte le plancton. Bon, c'est quelque chose qui est très bien documenté, qu'on connaît à travers toutes les mers du globe depuis très longtemps. Là, on ne connaît pas exactement les mécanismes qui sont en jeu au niveau de la Méditerranée nord-occidentale, mais on soupçonne que c'est ça grâce à des échantillons anciens de phyto et de plancton qu'on a, et qui ont tendance à montrer qu'effectivement, il y a quelques années, lorsque les anchois et sardines se portaient mieux, le plancton qu'elles mangeaient était de plus grosse taille et plus énergétique.
Et c'est selon vous lié au débit du fleuve, le Rhône?
Alors le Rhône, voilà, faut savoir que le Rhône, c'est la principale rivière, le principal débit fluvial en Méditerranée, maintenant qu'il y a le barrage sur le Nil. Donc c'est vraiment une source d'enrichissement extrêmement importante pour la Méditerranée. Et en fonction de ces débits, ces fluctuations de ces débits, ça va avoir des répercussions sur l'enrichissement et sur la production planctonique en Méditerranée.
Et la température, Jean-Marc Fromentin, quel est son rôle aussi dans ces observations que vous avez faites?
Alors la température pourrait avoir un lien indirect, notamment sur les questions de survie des poissons lorsqu'ils viennent de se reproduire. La sardine se reproduit l'hiver. Pendant l'hiver, elle n'a pas grand-chose à manger, donc elle a un gros effort énergétique à produire pour produire des œufs. Et après, elle doit avoir des conditions relativement favorables de nutrition et environnementale générale, dont la température, pour pouvoir récupérer. Donc si effectivement la température chute, on a plutôt des questions de récupération qui sont moins bonnes.
Mais elle chute ou elle augmente?
Oui,
parce
c'est ça.
Que on dit avec le changement climatique qu'il y a un réchauffement des eaux de la Méditerranée.
Ouais, des eaux effectivement intermédiaires et profondes. Sur les eaux de surface, dans le golfe du Lion, c'est pas marqué, on n'a pas vraiment on a des fluctuations saisonnières qui sont très importantes. Mais sur l'interannuel, on ne voit pas de signal fort. Et donc, probablement que la température n'est pas le premier responsable des changements qu'on voit sur les populations de sardines anchois.
En tout cas, quelle est la conséquence pour les pêcheurs de la diminution de la taille des anchois et des sardines en Méditerranée?
Ben, un manque à gagner certain, puisque la commercialisation des sardines anchois est beaucoup liée à la taille. Donc, si notamment la sardine n'est pas assez grosse et pas assez grasse, il n'y a pas de marché. Donc ça veut dire que les pêcheurs ramènent de la sardine de petite taille et qui vendent à un prix dérisoire qui ne couvre pas leurs frais.
Et est-ce qu'il y a d'autres stocks de poissons dans lesquels du coup ils arrivent à puiser ou pas?
Bah, c'est ça un peu le problème en Méditerranée. Alors actuellement, mis à part le thon rouge qui revient assez fortement, bon nombre d'espèces sont déjà surexploitées ou en abondance faible, ou alors qui n'ont pas de marché, et donc du coup les reports ne sont pas extraordinaires.
Oui,
il n'y a pas beaucoup de solutions.
Donc ça impacte également les prédateurs des sardines et des anchois, dont justement les thons rouges?
Non, alors justement, on a fait dans l'étude, c'était plutôt l'inverse, on a plutôt cherché à savoir si le thon, le fait du retour du thon et d'avoir des grosses abondances de thon dans la zone, pouvait être un élément clé de ces fluctuations qu'on observait chez la sardine et l'anchois, et notamment si les thons sélectionnaient les grosses sardines et les gros anchois qui avaient disparu des pêcheries. Et on a fait une étude sur une thèse, c'était un thésard qui a fait ça, et on a pu montrer à peu près sans ambiguïté que le thon n'est pas responsable de la disparition des grosses sardines et des gros anchois.
Alors en Atlantique, en revanche, on observe un phénomène différent qui est, sauf erreur, une remontée des stocks de sardines et d'anchois. Alors qu'est-ce qui se passe en Atlantique qui ne se produit pas en Méditerranée?
Ah ben, c'est des stocks indépendants. C'est-à-dire que c'est des stocks qui répondent à des conditions environnementales, qui se reproduisent de manière indépendante. Il n'y a pas de connexion directe entre ces stocks. Donc on a l'habitude d'avoir ces stocks-là qui ont des dynamiques totalement différentes. Lorsque l'anchois dans le golfe de Gascogne s'était effondré au milieu des années 2000, il était en très bonne santé ici, par exemple.
Est-ce que vous aviez, Jean-Marc Fromentin, un recul sur les observations faites justement en Méditerranée ces dernières décennies?
Oui, alors c'était un des résultats vraiment très intéressants du projet, parmi d'autres. C'était qu'on a pu reconstruire le niveau de capture depuis 1865 des pêcheries françaises, et notamment sur la sardine, l'anchois et le maquereau. Donc on a un recul sur 150 ans, ça c'est assez exceptionnel, on a vraiment du mal à avoir ces informations sur le très long terme. Et ce qu'on a pu montrer, alors ça c'était bien, c'est que de ce qui se passe au niveau des niveaux de capture, de débarquement de sardines depuis 5-6 ans, ça s'est jamais produit depuis 150 ans en France. C'est-à-dire que même lorsqu'on avait des pêcheries qui avaient rien à voir avec les pêcheries actuelles, hein, bien moins modernes, des bateaux en voile, en bois, etc., on pêchait beaucoup plus de sardines à ce moment-là que maintenant.
Donc on est face à un phénomène inédit, là, oui.
Ouais, exactement.
Mais est-ce qu'il est réversible? On a envie de dire, est-ce que les anchois et les sardines vont recommencer à vivre normalement et à grandir? Ou est-ce que c'est cuit, si j'ose dire?
Non, c'est possible. Si c'est un lien avant tout océanographique, c'est-à-dire une origine physique avec un changement dans les courants, toute cette circulation océanique, il y a des grandes chances que ça revienne. Quand, on ne sait pas, bien évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qui nous intrigue un petit peu à l'heure actuelle, c'est que comment se fait-il qu'on n'a pas eu ces fluctuations ou ces niveaux de capture aussi bas depuis 150 ans? Et ça nous pose quand même un certain nombre de questions, ce qui nous conduit à peut-être à nous poser aussi des questions sur les questions de contamination. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir peut-être un lien contamination des eaux, situation environnementale défavorable et ce genre de choses qui se cumulent.
Merci beaucoup en tout cas Jean-Marc Fromentin pour les conclusions de ce projet EcoPelgol et qui aura donc une suite évidemment sur la zone méditerranéenne. Merci également à vous Hervé. On retrouve ces infos sur reporter.net j'imagine.
Oui, tout à fait.
Et bon, on peut se connecter et se retrouver la semaine prochaine en attendant. Merci beaucoup Hervé Kempf.
Merci.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée possèdent des gènes de Denisovien, notre ancien cousin qui s'est éteint il y a 30 000 ans. Des chercheurs ont répertorié plus de 1500 génomes représentatifs de la population mondiale pour déterminer que seuls les habitants des îles du nord de l'Australie partagent jusqu'à 3,4% de leur génome avec les Denisoviens. Et cet héritage aurait pu les aider à s'adapter aux hautes altitudes au fil du temps. L'espèce Denisovien est la seule espèce dite archaïque dont les analyses génétiques des hommes modernes nous apprennent plus que les fossiles découverts, puisqu'à ce jour, il n'a été trouvé qu'une phalange et deux dents de Denisovien. Bonne nouvelle pour les arbres, des scientifiques américains annoncent que la forêt chinoise gagne du terrain. C'est la première fois qu'une étude indépendante établit un tel bilan après des années d'inondations et de défrichements. Des images satellites fournies par la NASA montrent que la surface des forêts chinoises a augmenté de près de 160 000 km². Toutefois, les chercheurs restent méfiants puisque la Chine a massivement délocalisé ses filiales de production de bois vers Madagascar, l'Indonésie ou encore le Vietnam. La déforestation aurait donc juste changé d'adresse. Et puis 14 adultes et un bébé de l'espèce de rhinocéros de Sumatra viennent d'être recensés dans les forêts de Bornéo en Indonésie. En 2013, des scientifiques qui étudiaient les orang-outans ont remarqué la présence de ces pachydermes alors qu'ils étaient considérés comme disparus par l'Union internationale pour la conservation. Les chercheurs espèrent encore trouver une dizaine d'individus pour que la population soit considérée comme véritablement viable. Mais la présence d'un rhinocéros juvénile est déjà un bon point de départ puisque ça signifie qu'au moins un mâle reproducteur est dans le groupe. Le gouvernement indonésien envisage, pour conserver les rhinocéros, de bâtir un sanctuaire comme il en existe déjà sur l'île de Sumatra. Allez, une autre très grosse bête dans le dossier de la tête au carré, le tyrannosaure, le T-Rex superstar. Avec vos questions, franceinter.fr et le mot-clé, attaque sur les réseaux.
Qu'est-ce que c'est? Quoi? Oh là là! Attendez! Donnez-vous bien, tout le monde! Donnez-vous bien!
Voilà, bonne ambiance chez les dinos pour, évidemment, en illustration de ce Jurassic Park 3, pour évoquer le T-Rex Superstar, dossier de la tête au carré, avec ce livre que vous signez, Jean Leleuf, et qui sort chez Belin. Vous êtes paléontologue et vous dirigez le musée des dinosaures d'Esperanza. C'est dans l'Aude, non loin de Carcassonne, c'est ça?
C'est ça, c'est au sud de Carcassonne.
Et vous êtes le co-découvreur en 98 d'un dinosaure sauropode d'une douzaine de mètres de long, et vous êtes aussi l'une des plumes du Dinoblog, hein, c'est un blog de vulgarisation sur la paléontologie. Et puis Alain Beneteau, vous êtes également avec nous, illustrateur spécialisé justement dans ce domaine de la paléontologie. Vous avez beaucoup travaillé sur les dinosaures, ceux à plumes en particulier. Il y a un ouvrage qui est sorti également chez Belin en 2015. Et vous signez la couverture du livre de Jean Leleuf. Toutes les questions déjà nombreuses arrivent sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Jean Leleuf, donc à l'origine du livre, il y a une exposition, hein, je crois, que vous aviez présentée justement sur les tyrannosaures dans votre musée. Vous aviez un modèle, c'est ça, de 10 mètres de long? Enfin, pas un vrai?
C'est ça, c'est un animatronique. Un dinosaure robotisé de 10 mètres de long qui est au cœur de cette expo, qui est une expo permanente en fait sur le tyrannosaure au musée.
Ouais, alors ça justement, ce tyrannosaure, c'est probablement le dinosaure le mieux connu du public. C'est également un objet scientifique, évidemment pour les chercheurs. C'est quoi? C'est vraiment l'archétype du grand dinosaure, et ça dure depuis quoi? Ça fait un siècle, c'est ça, cette popularité quasiment aux États-Unis en tous les cas?
C'est ça, il a été découvert en 1900, il a été nommé en 1905 par un chercheur américain, et pratiquement depuis le début... Sa popularité s'est échappée des cercles scientifiques, en fait.
Ouais.
Il a été très vite, devenu un objet d'effroi ou d'admiration pour un très large public à travers les reconstitutions des artistes, des films de cinéma dès les années 20, et puis, des livres aussi de littérature populaire, de littérature de SF notamment.
Ouais, vous racontez qu'en France, c'est venu beaucoup plus tard, hein. En fait, avec la sortie quasiment de Jurassic Park, c'est ça? On s'intéressait peu dans notre pays aux dinosaures?
C'est pas qu'on ne soit pas intéressé aux dinosaures en France, mais déjà certainement moins qu'aux États-Unis, où depuis le début du XXe siècle, depuis une très grande découverte qu'il y a eu à ce moment-là, ils font vraiment partie de l'histoire de ce pays. Chaque État aux États-Unis, pratiquement, a son fossile, state fossil, fossile de l'État. Ce n'est pas le cas en France. Hein. Les régions n'ont pas encore pour l'instant choisi de fossiles emblématiques. Ouais. Peut-être que ça va venir. Mais en France, en tout cas, le dinosaure qui a eu un grand succès dès le début du XXe siècle et pendant presque tout le siècle, et pour de toute autre raison, c'est Diplodocus, qui est arrivé au début du XXe siècle au Muséum de Paris, et ça a créé un buzz considérable. Le tyrannosaure, effectivement, resté à la traîne, peut-être trop américain, parce qu'effectivement, il est américain. Et on n'en trouve guère de traces, en fait, avant, j'exagère un petit peu, mais avant son arrivée triomphale.
Sur les écrans.
Sur les écrans, enfin, en 93.
Sauf Alain Beneteau, hein, qui est lui très précoce, visiblement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, s'intéressait déjà au tyrannosaure.
Voilà, mon premier tyrannosaure, c'est King Kong de 1933. Alors, il m'a beaucoup marqué. C'est de toute façon la première référence que j'aurais pu voir, je pense, à l'époque, dans les années 70.
Ah, c'est vrai qu'il y a une scène.
Ah,
la fameuse scène.
La bagarre.
Avec le T-Rex, voilà, c'est vrai. Ouais.
Donc ça, c'est ma première rencontre avec T-Rex. Et puis après, c'était plutôt via de la littérature, comme l'encyclopédie de Zdeněk Burian, qu'on a dû partager dans notre jeunesse, où était représenté le tyrannosaure, le Tarbosaurus, un cousin à lui, etc.
C'est quoi? C'est son aspect, d'abord très massif, évidemment, son côté carnivore aussi qui vous a plu?
Oui, c'est le fear factor, un peu, quand on est enfant, c'est vraiment quelque chose de monstrueux, de terrifiant, avec des dents comme des couteaux à viande, etc. Ouais. Il est décrit de toute façon de manière...
Combien de centimètres les dents, Jean Leleuf, quand évidemment on a trouvé le tyrannosaure à sa taille la plus importante?
15 et 20 centimètres.
Voilà, ce sont des belles dents, effectivement. Alors bizarrement, c'est ce que vous racontez, malgré cette popularité, aucun ouvrage n'existait en français?
Non, aucun ouvrage. Il y a des livres pour les enfants, bien entendu, sur les dinosaures, mais il n'y avait aucun ouvrage sur ce passionnant animal.
Ouais, alors qu'il y a des millions d'articles sur les moteurs de recherche. Vous avez fait le calcul et il arrive largement en tête, visiblement, de toutes les espèces de dinosaures.
Tout à fait. Même aujourd'hui, sur Internet, plus de 100 ans après son invention, ça, Sa résurrection, c'est la star, effectivement, des dinosaures.
Alors, je disais tout à l'heure, il a disparu, évidemment, avec tous les autres, il y a 66 millions d'années. Hein. Maintenant, il faut revoir à la hausse, évidemment, la date où cette météorite est venue s'écraser sur cette partie du Mexique. Donc, les dinosaures, évidemment, ont disparu à cette époque-là, mais Viron demande si vraiment, véritablement, il n'en reste pas encore. Parce qu'on parle des oiseaux aujourd'hui, hein.
Tout à fait, les oiseaux sont, stricto sensu, des dinosaures. Ce sont les descendants directs d'un groupe de petits dinosaures carnivores. Mmh. Donc du point de vue de la systématique, de la classification des animaux, les oiseaux font partie du groupe zoologique dinosaure. Effectivement, c'est quand même un groupe bien particulier de dinosaures.
Alors Larry demande, quelle était l'aire de répartition justement de ce fameux T-Rex ? Alors vous parlez beaucoup des États-Unis, mais est-ce qu'il y en avait à peu près partout sur la planète ou pas ?
Alors non, le T-Rex justement, c'est un animal qui vivait uniquement dans l'ouest des États-Unis, qui était une île à l'époque, une grande île. Il y avait une mer intérieure sur le centre des États-Unis. Donc on en trouve en fait dans le Dakota, le Montana, on en trouve un tout petit peu au sud du Canada et puis c'est tout. C'est-à-dire que, par exemple, à l'est des États-Unis, sur la côte est, on a des dinosaures de la même époque, mais pas de Tyrannosaurus, qui a vécu vraiment uniquement sur cette île pendant les quelques millions d'années de son existence.
Et pourquoi ? Il y avait des conditions environnementales tout à fait particulières à cette région du globe ?
Alors, c'est surtout qu'une fois qu'il a évolué sur cette région, qui était séparée par des mers des autres régions du globe, il ne pouvait plus accéder au reste du monde. Il ne pouvait pas traverser des océans, ni même des mers relativement étendues. Donc il est resté là, bien obligé, parce qu'il ne pouvait plus en sortir. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que son plus proche cousin vivait en Mongolie. Donc il y a eu des contacts certainement, des échanges entre l'Asie et l'Amérique du Nord, peut-être une dizaine ou une quinzaine de millions d'années avant la disparition des dinosaures, qui ont permis le passage, dans un sens ou dans l'autre, on ne sait pas trop, des ancêtres du commun, du tarbosaure et du tyrannosaure.
Maya demande, les oiseaux étant considérés comme les descendants directs des dinosaures, est-ce qu'on peut imaginer que les tyrannosaures pouvaient avoir des plumes et a-t-on trouvé des fossiles de peau pouvant prouver qu'ils avaient des écailles ? Alors, Alain Beneteau, c'est pour vous.
Oui, les deux. En fait, on peut imaginer les deux. Mais en tout cas, on est sûr qu'il avait des écailles puisqu'on en a retrouvé des empreintes de peau. Mais pour les plumes, je me permets de faire en sorte qu'ils pouvaient en avoir sans en avoir la preuve. Mais vu l'évolution de tous ses cousins, c'est fort probable. Après, on ne sait pas dans quelle quantité ou à quels endroits ou peut-être pas du tout. J'en sais absolument.
C'est plus un duvet d'ailleurs là, que vous proposez sur la couverture du livre.
Voilà, j'ai fait un compromis entre le fait qu'ils pouvaient en avoir ou pas. J'ai pas trop cherché.
Décrivez-le nous quand même pour ceux qui n'ont pas encore.
Bah là, en fait, je suis resté sur des panaches de plumes au niveau des ailes, peut-être pour parader ou des choses comme ça, et une toute petite couverture très légère sur le sommet et en gardant des traces de peau sur tout le reste du corps.
Bon, c'est bien parce qu'en dépliant le livre, on peut en avoir quand même une représentation assez globale. Et évidemment,
j'ai fait un compromis en fait.
Ouais, en couverture, on voit ces pattes avant extrêmement courtes, très caractéristiques aussi de ce dinosaure. C'est une question de Christophe sur Twitter. Pourquoi avait-il les bras aussi courts par rapport au reste du corps et combien de temps vivait-il et avait-il une vie sociale ? Alors, plusieurs questions en une seule.
Alors,
d'abord, les pattes.
Les pattes, déjà, à quoi lui servaient ces toutes petites pattes qui font moins d'un mètre de long pour les pattes de devant ? C'est une vaste question depuis qu'on l'a découvert. Le découvreur de Tyrannosaurus, Osborne, pensait que c'était peut-être des crochets copulatoires pour que le mâle accroche la femelle pendant la copulation. On a tendance plutôt à penser aujourd'hui que ça devait lui servir en fait pour se relever quand il se couchait, un petit peu comme le sprinter au démarrage qui pose ses mains pour se relever.
On a affaire à un vrai bipède en plus là. Hein.
Ah, c'est un bipède absolument. Ouais. Oui. Là, il ne pouvait absolument pas utiliser ses pattes de devant. Enfin, pour d'ailleurs pas grand chose de toute façon, mais certainement pas pour marcher. Oui.
Ouais. Donc ça, c'est une des hypothèses les plus sérieuses pour l'instant.
Oui. C'est une des hypothèses les plus plausibles. Alors, il y a des gens qui disent évidemment que ça ne servait à rien. Donc, ce n'est pas la peine de se poser la question. Ne perdons pas notre temps. C'est quand même des os. Enfin, l'humérus, par exemple, du tyrannosaure est parcouru de très grosses crêtes osseuses. Donc, il y avait des muscles puissants qui étaient attachés. Donc, ce n'était pas non plus un organe en voie de régression. Ça servait à quelque chose. À quoi ? Bon, ça, on ne sait pas trop.
Alain Beneteau, une question pour vous, des gronds sur Twitter. Les jeunes avaient donc des plumes, mais de quelle couleur ? Alors, je m'adresse vraiment à l'illustrateur.
Ça, on ne le sait pas. Pour Tyrannosaure, on ne le sait pas.
Il n'y a pas moyen de le savoir ?
Non, tant qu'on n'a pas un spécimen suffisamment bien conservé et qui puisse révéler les éléments mélanosomes, qu'ils appellent les éléments des chromosomes, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est des cellules qui donnent une information sur le pigment. On n'a pas
on
du
pourrait,
tout ce genre.
On pourrait en trouver encore aujourd'hui, ayant traversé ces millions d'années?
Oui, ça dépend intimement des conditions de fossilisation de l'animal. On peut vraiment avoir des traces très très précises.
Jean Leleuf.
C'est notamment en Chine, les fameux gisements chinois du début du Crétacé, où on a découvert depuis 15 ans un grand nombre de dinosaures à plumes, qui ne sont pas des tyrannosaures, qui sont des animaux d'autres types de dinosaures carnivores plus petits. On peut trouver sur certains spécimens, ce que raconte Alain, dans les plumes des mélanosomes qui permettent, par analogie avec ce qu'on observe sur les plumes d'oiseaux actuelles, de restituer la couleur de certaines plumes de certains dinosaures.
Donc là, vous laissez libre cours à votre créativité, finalement.
Absolument.
Benito,
je fais quelque chose d'approchant entre ce que je peux imaginer d'un oiseau ou d'un reptile. C'est un hybride, c'est quelque chose de complètement personnel. Oui.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette enquête scientifique autour du T-Rex et les messages nombreux sur franceinter.fr.
Laisse même mes dents prendre le soleil. Je ramène ma fraise là où c'est triste. Je te prends la main. Sentir couleur, structure, culture en auxiliaire. J'ai l'air de faire des rimes vivantes. On tourne en valse, loin du ciment. Les grands de ce monde, je les calcule pas. Ça me fout la gerbe de voir la merde. Alors je me perds dans le fond de tes yeux. Et je danse avec les deux. Allons plus loin, en autarcie. Voir comme c'est beau, les ciels pluvieux. Qu'un jour pluvieux, je puisse dire comme tout est beau, avec le sourire. Et nique sa mère, je veux la lumière. Jusque j'ai pas des choses primaires. Le vent clairé, l'esprit serein. Le chant du ciel et l'amour des chiens. L'amour de ma mère, ça me suffit pas. Je voudrais qu'elle aime la terre entière. Mais ça, les gens apprécient pas. Ils disent qu'il faut rester au pas. Des fois c'est sec, comme une biscotte. On n'aime pas le mec qu'on est devenu. On se laisse berner par jaune du toc. Et on regrette ce qu'on a perdu.
Souffle le vent, aux deux zen à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
T-Rex Superstar, l'irrésistible ascension du roi des dinosaures. C'est ce livre que vous signez Jean Leleuf aux éditions Belin. À vos côtés, Alain Beneteau, illustrateur. Comment vous travaillez justement, Alain Beneteau, avec les scientifiques pour représenter tous ces dinosaures?
C'est ma matière première, les scientifiques. C'est-à-dire que tout leur travail en amont, qui peut durer des années, je pense, entre la découverte du spécimen et la description et la publication du papier. Mmh. Moi, j'arrive en toute fin de chaîne pour exploiter toutes ces données.
C'est ça. Fournir une image vulgarisée. Il vous faut le maximum d'informations, c'est ça?
Ah oui. Ouais. Plus j'en ai et plus je peux créer. En fait, c'est étonnamment, plus j'ai de contraintes et plus je suis créatif.
C'est vrai.
C'est étonnant.
Et vous discutez beaucoup pendant votre création, justement, avec les scientifiques pour les détails?
Ça va dépendre, bien sûr, des spécimens qu'on a représentés. Pour un T-Rex, on va peut-être pas discuter 15 ans. Parce qu'on a vraiment énormément d'informations. Mais pour des spécimens plus méconnus, là, on a un véritable échange entre croquis, réalisation, décor, etc., qui est très intéressant.
Ouais. Ça a beaucoup évolué, d'ailleurs, la façon dont on représente les dinosaures aujourd'hui par rapport à il y a quelques décennies.
Alors, elle s'est développée plus liée aux technologies qu'on emploie pour illustrer. Ça peut aller de la 3D à l'illustration de dimensions traditionnelles qu'on ne fait plus trop. Et pour moi, la peinture numérique est... et amalgamer toutes les données numériques que moi je peux extraire, que ce soit des photos, que ce soit l'accès à la documentation a beaucoup changé. Avant, avoir une documentation, c'était contacter des chercheurs, des musées. Aujourd'hui, tout est sur Internet. On peut vraiment accéder à l'information facilement pour créer une image plus fluide.
Ouais. Qu'est-ce qui a changé, Jean Leleuf, justement, dans la façon dont on représente les dinosaures ?
Beaucoup de choses, et sans remonter jusqu'au 19e siècle, les gens qui ont découvert les dinosaures dans leur enfance, avant Jurassic Park, on va dire, avant 93, pour eux, le tyrannosaure, c'est forcément un animal qui est sur ses pattes arrière, qui a le buste vertical, avec la tête, une grosse tête juchée tout en haut, là, et puis une longue queue qui traîne par terre. Ça, c'est l'image du tyrannosaure entre sa découverte au début du 20e siècle et puis les années 80, quasiment. Et par contre, si vous repensez à Jurassic Park, c'est pas du tout le même animal. Jurassic Park, c'est un petit peu le dinosaure qui est dessiné sur la couverture du livre. C'est colonne vertébrale horizontale, la queue bien au-dessus du sol. Donc c'est là l'image actuelle du tyrannosaure. Alors ça s'est pas fait d'un coup de baguette magique. C'est dû à la réinterprétation dans les années 70-80 de toute l'anatomie du tyrannosaure, montrant que l'ancienne posture était totalement incorrecte et que la façon dont il se déplaçait, c'était vraiment avec cette colonne vertébrale horizontale. On le sait en trouvant par exemple des empreintes de pas fossilisées, qui n'y a pas du tout la trace de queue qu'on pourrait imaginer si cette vieille image était réelle. Donc l'image du tyrannosaure a vraiment changé de fond en comble sur les 20 dernières années.
Ouais. Lorsqu'il est arrivé à l'American Museum, c'était au début du siècle précédent, je crois, il y avait à New York, donc, il y avait un problème de représentation, de posture, justement, avec les ossements.
Oui, il y a eu un questionnement de la part d'Osborne, le paléontologue qui l'a décrit, et qui l'a justement posé dans cette sorte de... installé dans cette sorte de posture kangourou qui était particulièrement impressionnante et qui est restée la doxa pendant près d'un siècle.
Partons justement sur le tournage de Jurassic World, le dernier de la saga, c'était en juin dernier.
Encore plus terrifiant, quand on sait qu'un T-Rex grandit tout au long de sa vie, imaginez la taille de celui-ci, 22 ans après l'ouverture du premier Jurassic Park de Steven Spielberg.
C'est super impressionnant.
Pour ce quatrième film de la saga, le réalisateur Colin Trevorrow reconstitue à Hawaï un parc gigantesque de dinosaures. On le visite avec les jeunes neveux d'une scientifique qui modifie génétiquement ces créatures reptiliennes.
Ici, le parc est censé exister réellement. Il fonctionne, il a du succès, il est sans danger. Et bien sûr, il ne l'est pas. Until
it's not, of course. Et c'est tout le business autour des dinosaures, d'ailleurs, qu'on voit bien dans Jurassic World. Alain Beneteau, alors sur les quatre de la saga, lequel est-ce que vous préférez? Je crois que les deux derniers n'étaient pas les meilleurs, loin de là.
Les trois derniers, encore que le deux est pas ça. Mais le premier est vraiment a marqué toute une génération.
Ouais. D'un point de vue scientifique ou purement cinématographique?
Les deux, puisqu'il apportait vraiment une forme de respect à la science. Il présentait comme la science autour des dinosaures, avec tout ce que ça pouvait impliquer de science-fiction derrière. Mais il montrait vraiment la science en avant et ce qu'on pouvait interpréter de ces animaux. Les héros sont des scientifiques. Et puis c'est aussi l'arrivée des premières images en synthèse qui ont marqué vraiment ce film comme une pierre vraiment précieuse pour toute la paléontologie derrière.
Vous partagez les mêmes critiques, Jean Leleuf ?
Oui, tout à fait. C'est en plus un film qui n'est pas mauvais, puis qui ne manque pas d'humour non plus.
Le premier,
l'humour a largement disparu.
C'est vrai, oui. Alors, on n'a pas répondu à toutes les questions de Christophe tout à l'heure sur Twitter. Combien de temps vivait le T-Rex? Est-ce qu'il avait une vie sociale?
Alors, pour la première question, les plus gros individus sont morts à 28 ans, le sait en étudiant l'intérieur des zoos.
D'accord.
Il y a en fait des sortes de lignes d'arrêt de croissance qu'on peut compter, qui sont annuelles probablement.
Comme les cernes des arbres,
un petit peu. Comme les cernes des arbres, tout à fait. Donc les très gros T-Rex mouraient relativement jeunes, en fait. Ça, c'est une surprise de ces dernières années, en fait. On a longtemps cru que c'est des animaux qui devaient vivre presque plusieurs siècles pour atteindre ces tailles-là, pas du tout. Ouais. Et quant à la vie sociale, c'est une autre...
Pardonnez-moi, comment on explique justement cette espérance de vie courte?
Mais en fait, les dinosaures, en général, ne vivaient pas si longtemps que ça. Et ce qui est extraordinaire chez eux et qu'on ne comprend pas forcément très bien, c'est la vitesse de croissance, qui est extraordinairement rapide. Après, les animaux comme les tyrannosaures avaient une vie quand même assez mouvementée,
oui.
Du moins de ce que l'on peut en savoir, c'est-à-dire en regardant leur squelette. Mm-hmm. On voit vraiment régulièrement des squelettes avec des os, des fractures qui ont été ressoudées,
oui.
Donc des fractures des côtes, des fractures du péroné. Ils avaient une vie assez agitée, donc ils ne mouraient pas.
Est-ce que c'est la dépense d'énergie avec cette croissance ultra rapide qui pourrait expliquer justement cette espérance de vie très courte?
Ah, là, j'avoue que c'est pas vraiment mon domaine.
À la Benesso.
C'est pas impossible, oui, ouais, mais ouais. Là, on est quand même dans la spéculation. On n'a pas vraiment de lien entre les causes et les effets. Là,
alors, il y a une publication très récente, hein, d'ailleurs, qui montre que ces tyrannosaures ont été d'abord de taille très modeste, voire quasiment semblable à celle des hommes actuels, hein.
Oui, tout à fait. Ben, les tyrannosaures, c'est une grande famille, hein. Il y a Tyrannosaurus dedans, qui est une des espèces. Après, on a la famille des tyrannosauridés qui regroupe ses plus proches cousins, qui sont quand même déjà d'assez gros animaux, hein, mm-hmm. qui font plutôt de 5, 6, 7 mètres de long. C'est déjà des belles bêtes. Et puis, dans ce qu'on appelle les tyrannosauroïdes, qui sont le groupe encore plus large contenant les tyrannosauridés, on a des formes beaucoup plus petites. Donc, il est clair de toute façon que... Au début du Crétacé, les ancêtres directs du tyrannosaure étaient ouais. des petits dinosaures carnivores.
Vous les dessinez aussi, ceux-là, Alain Benesso ?
Bien sûr. Ouais. Ils étaient beaucoup l'objet du livre dont vous aviez parlé précédemment avec Marie-Laure Leloir et Arnaud Salomé sur les traces des dinosaures à plumes. Et on évoque justement que c'était des tout petits dinosaures bipèdes, plutôt calfeutrés dans la forêt, qui chassaient de tout petits animaux.
Et voilà. Qu'en est-il de leur vie sociale, Jean Leleuf, pour terminer les réponses aux questions de Christophe ?
La vie sociale, on passe à un autre type de fossile pour répondre à la question, c'est les empreintes de pas fossilisées. On connaît des empreintes de pas fossiles de tyrannosaures, de tyrannosauridés en tout cas, pas forcément de l'espèce tyrannosaurus, et notamment un site en Colombie-Britannique où on a en fait trois pistes parallèles. Conclusion évidente, donc trois animaux marchant côte à côte.
Ouais.
Conclusion, probablement y avait-il chez ces gros prédateurs une forme de vie sociale. Alors après, chassaient-ils en meute, etc. Ça, c'est de la spéculation.
Parce
mais en tout cas,
c'est le seul élément dont on dispose pour pouvoir arriver à cette conclusion.
Oui, c'est le principal. Hum. Mais ça peut suffire, des petits indices comme ça permettent d'avoir des conclusions beaucoup plus vastes.
Les dinosaures sur la question des plumes, justement, traités dans la série « Tu mourras moins bête », on en parlait avec Marion Montaigne sur Arte.
Cher prof, il paraît que les dinosaures étaient en fait des gros lézards couverts de plumes, c'est vrai ?
Voilà enfin une question pertinente. Au 19e siècle, on représentait les dinosaures comme de gros lézards pépères vautrés dans leur marécage. Heureusement, au 20e siècle, les illustrateurs leur donnèrent plus de vie. Grâce à de récentes recherches, on sait maintenant que certains dinosaures avaient des plumes. Alors attention, hein, quand on dit plumes, on devrait plutôt parler de duvet tout doux. Autant vous dire que le prochain Jurassic Park sera terrible.
Tirez !
Je peux pas, Chris, il est trop cute.
Piou, piou.
En revanche, on a découvert des fossiles qui avaient en plus du duvet leur servant d'isolant thermique, des plumes dures sur les pattes antérieures. Les plumes seraient apparues il y a 150 millions d'années sous forme de duvet comme protection thermique. Puis, les plumes à tiges sont apparues, mais seulement pour l'apparat des mâles.
Vas-y, mademoiselle.
Voilà, diffusé sur Arte en janvier et février, le professeur Moustache et la voix de François Morel. Jean Leleuf, un commentaire?
Non, c'est assez juste tout ça.
Marion Montaigne qui a dessiné évidemment toute la série. On poursuit notre discussion dans un instant et vos réponses aux questions des auditeurs. Franceinter.fr, juste après King for a Day et Jamiroquai dans la tête au carré.
To
you see that you're only king for a day? You must believe that.
Jamiroquai, dans la tête au carré, avec mes invités Jean Leleuf, paléontologue, et Alain Beneteau, illustrateur, et autour de ce livre T-Rex Superstar aux éditions Belin. Alain Beneteau, est-ce que, au travers de vos dessins, vous suscitez des questions aussi chez les scientifiques?
Oui, je dirais même que c'est le but, c'est le plus intéressant dans notre travail, parce qu'il me donne une recherche très, très poussée, très brute, et sur, par exemple, ce dont on parlait tout à l'heure, des lésions, des interactions entre espèces dont ils vont avoir des traces sur les fossiles. Là, j'aime bien amener mon interprétation d'une action potentielle qui aurait pu générer ce type de blessure avec une autre espèce et tout. Et là, c'est intéressant de discuter de ce qui est possible ou pas avec le chercheur.
Bah là, vous faites un vrai boulot de scientifique, là, pour le coup, hein, dans ces échanges, en tout cas, et ces propositions.
Non, je dirais pas scientifique, parce que je le suis vraiment pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui vient naturellement quand on dessine. On sent si ça passe, si ça marche ou pas. En fonction des données qu'on a, on sent si ça va être un truc naturel ou pas.
Ouais, Jean Leleuf a...
Oui, parce qu'en fait, les paléontologues, ce qui les intéresse au départ, c'est le squelette. L'étude du squelette, et puis de pouvoir faire parler ce squelette sur plein de sujets. Mais les parties molles, comme en général on ne les connaît pas, on n'a pas vraiment, nous, on peut pas dire qu'on ait une expertise sur le sujet. Donc les débats avec les illustrateurs, ça... Il ne s'agit pas de squelette, il s'agit justement comment était le pli de peau à tel endroit, etc. Et là, forcément, le paléontologue est assez démuni. Parce que
et donc, le dessin permet de pouvoir, là aussi,
pouvoir se poser des questions qu'on ne se pose pas
un nouveau trait.
Oui, et puis les scientifiques en général sont vraiment assez conciliants sur notre manière de composer une image, d'avoir une certaine liberté, à partir du moment où on respecte les données qui nous fournissent.
Ouais. Autre espèce, autre famille de dinosaures, le Vélociraptor, et c'était toujours dans Jurassic Park, le premier en l'occurrence.
Vélociraptor ?
Oui, la forme est bonne. 1m80 de haut, je pense, 2m80 de long. Regardez, c'est long. Qu'est-ce que vous avez fait ?
Il l'a touché. Le professeur Grant a une incompatibilité avec les machines.
Ah, elles en veulent vraiment. Et regardez ces petits os en demi-lune à cette attache. C'est pas étonnant que ces loustiques aient appris à voler. Non, sérieusement. Bon, peut-être que les dinosaures ont plus de choses en commun avec les oiseaux qu'avec les reptiles. Regardez cet os pubien, tourné vers l'arrière, comme un oiseau. Regardez les vertèbres, pleines de poches d'air et de cavités, comme un oiseau. Et même le mot raptor veut dire oiseau de proie.
Voilà Jean Leleuf, mais il ne volait pas pour autant, le Vélociraptor.
Non, le Vélociraptor ne volait pas. Il n'avait pas non plus d'ailleurs les dimensions qui sont annoncées dans le film. Il était beaucoup plus petit, en fait. Ouais, c'est un animal qui devait faire 90 cm de haut et 1m50 de long. Donc
mais alors pourquoi ces plumes?
Alors, pourquoi ces plumes? Ben déjà, il y a un bon nombre de familles de dinosaures carnivores qui avaient des plumes, qui n'étaient pas du tout faites pour voler, qui sont probablement au départ un recouvrement thermique, en fait, qui les aide peut-être à maintenir une température constante en permanence. Et au fil de l'évolution, chez certaines espèces peut-être arboricoles, des longues plumes se développent, des sortes de rémiges, comparables à celles des oiseaux, qui vont permettre à ces animaux de planer, puis de voler. On est en fait dans la famille des raptors, entre guillemets, on est en plein chez les ancêtres des oiseaux. On observe les différentes phases qui vont mener au vol de l'oiseau.
Ouais. Et donc on peut vraiment les dessiner, Alain Beneteau, avec ce prolongement jusqu'aux oiseaux?
Oui, on peut les dessiner en prenant en compte toutes les espèces qu'il y a entre un vélociraptor et les oiseaux. Mm-hmm. On est capable de faire assez rapidement un lien entre les deux et ce qui se passe sur beaucoup d'espèces, sur le petit os en bréchet dont il parlait dans l'extrait, sur tout un tas de caractères qui sont proches des oiseaux. Ouais.
Les questions des auditeurs. Mars demande ceci. Les dinosaures sont-ils des reptiles? Peut-on savoir s'ils étaient à sang chaud ou à sang froid? Ah, alors ça, c'est pas la question la plus simple.
Hein. Non, pour le sang chaud et le sang froid, ça a été réglé ces dernières années grâce à des collègues géochimistes, sans rentrer dans le détail. En gros, oui, ils étaient à sang chaud. Voilà. Par contre,
la
notion de reptile, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, puisqu'on travaille, les scientifiques aujourd'hui utilisent ce qu'on appelle des groupes monophylétiques, c'est-à-dire des groupes zoologiques, qui essaient de rassembler l'ancêtre commun de tous les membres du groupe et la totalité de ses descendants. Donc si on prend la notion de reptile en partant des animaux actuels, donc on a les crocodiles, on a les lézards, on a les serpents, si on prend l'ancêtre commun de tous ces animaux, c'est aussi l'ancêtre commun des dinosaures. Donc les dinosaures sont des reptiles, mais c'est donc également l'ancêtre commun des oiseaux. Donc il faut que les oiseaux soient des reptiles aussi. Du coup, le terme reptile, ah oui, voyez-vous, devient un petit peu complexe à utiliser. On préfère utiliser des mots comme sauropside, qui regroupe à la fois les oiseaux et les reptiles, entre guillemets.
Quel était le régime alimentaire du T-Rex, demande Marc, et les combats épiques entre ce prédateur et des dinosaures herbivores géants sont-ils crédibles? Avec le sauropode, par exemple.
Alors, à nouveau, il faut partir des informations qu'on a, quoi, parce qu'on peut toujours spéculer, divaguer, mais si on veut rester extrêmement factuel, on dispose en fait d'une information essentielle sur le sujet, c'est un coprolite. Alors un coprolite, ça veut dire une crotte fossilisée, et on connaît, figurez-vous, un seul coprolite aujourd'hui attribué à Tyrannosaurus. Alors que nous raconte cette passionnante crotte? Eh bien, si on regarde à l'intérieur, on voit qu'il y a des petits os fragmentés qui ont été broyés. Et ces petits os, on a pu les rapporter à des dinosaures herbivores juvéniles, en fait de très jeunes cératopsiens et hadrosaures qui sont les contemporains du tyrannosaure. Ce qui veut dire que plutôt que d'imaginer un tyrannosaure se lançant sur un énorme tricératops adulte, il faut au contraire se dire qu'il consommait des jeunes individus de ces différentes espèces.
Mmh. Et les combats entre ce prédateur et d'autres herbivores géants, là pour le coup?
Tyrannosaurus ne fréquentait pas tellement les mêmes régions que les sauropodes géants de son époque. Donc les gros animaux avec lesquels il vivait, c'était des animaux qui faisaient déjà 8-9 mètres de long, mais c'était pas des animaux énormes. Et de toute manière, on a la formation par ce coprolite, mais ça tombe aussi sous le sens que un prédateur quel qu'il soit va plutôt s'attaquer à des animaux jeunes ou malades et pas aux grands adultes, aux grands mâles adultes d'autres espèces.
Combien de squelettes de tyrannosaures ont été trouvés à ce jour à peu près? Combien d'espèces décrites, demande Thibault?
Alors, de squelettes, une cinquantaine à peu près à ce jour et une seule espèce de Tyrannosaurus.
Ouais. On parlait des géants sauropodes, hein, Alain Beneteau, qui sont les plus grands d'ailleurs de tous les dinosaures quasiment.
Oui, c'est les plus grands représentants des dinosaures.
Absolument. Là aussi, vous les avez largement dessinés.
Oui,
dessiné,
ça va à des tailles qu'on a du mal à imaginer. C'est 40 mètres d'un bout à l'autre de la queue et de la tête.
Ouais. François demande, quel est l'ancêtre du T-Rex? Est-ce qu'on a une idée de l'évolution vraiment de cette famille? Au plus loin qu'on puisse remonter, Jean Leleuf.
Oui, au plus loin qu'on puisse remonter, il y a les plus anciens tyrannosauroïdes sont en Asie, au début du Crétacé, donc c'est 50-60 millions d'années avant le tyrannosaure. C'est des animaux qui font 2-3 mètres de long, des prédateurs de taille moyenne, disons.
Et Larry demande, est-ce qu'on dispose d'empreintes de l'intérieur d'un crâne de T-Rex? Est-ce que ça permet de conclure sur ses capacités, justement?
Oui, on en dispose même depuis longtemps, puisque dès 1905, le fameux paléontologue Osborne avait fait scier en deux un des crânes découverts pour pouvoir mouler l'intérieur de la cavité cérébrale.
Ouais.
Bon, depuis, on peut faire ça de manière moins traumatisante moins pour les conservateurs de musées et pour les zoos, évidemment, avec des scans. Donc on a une assez bonne idée des tailles relatives des différentes parties du cerveau chez le tyrannosaure.
Ouais. Et sur la vie sexuelle du T-Rex, est-ce qu'on a des informations intéressantes, Jean Leleuf? Est-ce que d'abord les squelettes permettent de distinguer les mâles ou les femelles?
Ah oui, et c'est un des rares d'ailleurs, c'est quasiment le seul dinosaure pour lequel on pense pouvoir actuellement distinguer les mâles des femelles. Parce que les femelles ayant des os en fait plus robustes que les mâles et contenant un type d'os, on a trouvé à l'intérieur des os, de ces gros os, de ces os robustes qu'on supposait être ceux des femelles, un tissu osseux très particulier qui est le même que celui qu'on trouve chez les oiseaux au moment de la ponte. Donc on en déduit que ce sont probablement effectivement les femelles.
Et c'est très récent ça, c'est sorti il y a quelques jours.
Alors il y a deux...
Le médulaire.
Oui, l'os médulaire, c'est revenu il y a quelques jours pour des raisons un peu mystérieuses, mais ça a déjà quelques années en fait.
Et sur les épisodes de copulation, ça se passait comment entre dinosaures géants?
Alors la copulation chez les dinosaures, c'est un vaste problème sur lequel, hélas, nous avons peu d'informations parce que il n'y a pas d'os. Voilà, nous sommes dans les parties molles.
Alain Beneteau, spécialiste de la matière molle, on l'a bien compris tout à l'heure.
Absolument. Donc on a toutes les raisons de penser que le Tyrannosaurus avait un pénis. Mais comme il n'est pas pourvu d'un os à l'intérieur, on n'a pas la moindre idée.
Bon, et la taille du pénis par rapport à la taille de l'animal, ce serait intéressant de le savoir quand même.
Ah, ce serait certainement passionnant, mais, ouais. Mais pour l'instant, nous en sommes réduits à
rêver. Ce sera l'objet d'un deuxième tome, peut-être, Jean Leleuf avec cet ouvrage T-Rex, Superstar, l'irrésistible ascension du roi des dinosaures, ça vient de paraître, et c'est chez Belin avec en couverture, donc l'illustration d'Alain Beneteau. Merci à tous les deux d'être venus et merci aux auditeurs pour les nombreuses questions.